de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec moi, Audrey. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Le Japon pense que le PIB de l'Indonésie va monter en flèche. Super Garuda Shield 2022 implique 4337 personnes. MTCRC Corée-Indonésie établit une coopération en matière de technologie marine avec l'UNAS. Indonésie a le potentiel pour devenir le plus grand acteur de l'industrie numérique en Asie du Sud-Est. L'ambassadeur d'Ukraine se félicite du retour des importations alimentaires. Question de santé et d'alimentation a été discutée lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN au Cambodge. Et l'ASEAN revient sur le consensus conclu avec la Birmanie. Monsieur Joytard, voici les nouvelles incomplètes. Le maire de Hokota, Kishida Kazuro, pense que le produit intérieur brut, PIB, de l'Indonésie dépassera bientôt le Japon. La position de l'Indonésie montrant de plus en plus sa présence envers un pays développé. Cela a été transmis par le maire Kishida lors de la réception d'une délégation de la Chambre des représentants indonésiennes dirigée par le vice-président de la Chambre des représentants indonésiennes, Rahmat Gobel, et l'ambassadeur indonésien au Japon et en Micronésie, Eri Ahmadi, au bureau polyvalent du gouvernement Hokota à Hokota, préfecture d'Ibaraki, Japon, mercredi. Il a dit que la position de l'Indonésie dans le monde montrait de plus en plus son existence. L'Indonésie est en train de devenir un pays développé. Il pense qu'avec le programme de relocalisation des capitaux, le PIB de l'Indonésie dépassera bientôt celui du Japon. Voyant l'excellent potentiel de l'Indonésie, Kishida a souligné que son parti était très enthousiaste à l'idée de renforcer la coopération dans le domaine avec l'Indonésie. La formation Super Garuda Shield SGS 2022 a impliqué 30 337 membres du personnel de 13 pays dans le monde. Le commandant de l'armée nationale indonésienne TNI, le général Andika Perkasa, du centre d'entraînement au combat de Batu Raja dans le sud de Sumatra, a déclaré mercredi que l'exercice de l'année précédente n'avait été suivi que par deux pays. Actuellement, 13 pays y participent. un certain nombre de pays qui ont envoyé le plus grand nombre de militaires était l'Indonésie avec 3455 personnes, à savoir l'armée avec 1995 personnes, la marine avec 704 personnes et l'armée de l'air avec 756 personnes. En outre, les États-Unis comptent 1337 personnes, l'Australie 91 personnes, le Japon 110 personnes et Singapour 52 personnes. L'exercice conjoint avec le Super Garuda Shield en 2022 se tiendra du 1er au 14 août 2022 dans trois endroits différents. Au total, 13 pays ont participé à l'exercice conjoint, dont l'Indonésie. Les pays concernés sont les États-Unis, l'Australie, le Japon, la Malaisie, Singapour, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Corée du Sud, l'Inde, le Timor-Orient, le Canada, la France, l'Angleterre. SGS 2022 est un exercice conjoint annuel entre l'armée nationale indonésienne TNI et le commandement Indo-Pacifique américain. Le Centre de recherche sur la coopération en technologie marine Corée-Indonésie, MTCRC, coopère avec l'Université Hasanuddin Unhas concernant les programmes universitaires et scientifiques dans les domaines des sciences et technologies marines, de la pêche et de la technologie de télédétection. L'adjoint au développement de l'aquaculture du ministère indonésien de coordination des affaires maritimes, Mohamad Rahmat Mulyanda, dans une déclaration écrite à Jakarta mercredi, a déclaré que le 28 juillet 2022, le protocole d'accord MOU de coopération maritime entre l'Indonésie et la Corée a été prolongé à Séoul, Corée du Sud. Selon lui, les deux parties peuvent renforcer conjointement cette collaboration et cette coopération stratégique, apportant ainsi des avantages à l'avancement de l'innovation scientifique et technologique, améliorant la qualité des ressources humaines et développant l'industrie maritime, qui a un impact sur le bien-être des personnes. Il espère également que la signature du protocole d'accord entre UNHAS et MTCRC sera l'un des piliers d'une bonne coopération initiale pour les deux parties, et apportera des progrès pour l'avenir du monde maritime, tant en Indonésie qu'en Corée. Le ministre indonésien des entreprises publiques BUMN, Erick Thohir, prévoit que l'Indonésie pourra devenir le plus grand acteur de l'industrie numérique en Asie du Sud-Est au cours des 8 prochaines années, soutenu par le potentiel de l'économie numérique qui devrait atteindre 4 500 billions de roupies. Dans une déclaration à Jakarta, mercredi, Erick a déclaré que cela faisait trop longtemps que les ressources naturelles et le grand marché de l'Indonésie n'avaient été utilisés que pour la croissance économique et la création d'emplois pour d'autres pays. Pour cette raison, a poursuivi Erick, le gouvernement travaille dur pour apporter des changements en supprimant la livraison de ressources naturelles SDA sous format de matières premières à l'étranger, dont l'une consiste à renforcer l'écosystème de l'industrie des batteries électriques. Il a estimé que prendre parti pour les ressources naturelles avait un impact majeur sur la communauté grâce à la création d'opportunités d'emploi et à la croissance économique. Il a ajouté que l'évolution des temps a également encouragé les gens, en particulier la jeune génération, à passer facilement à l'utilisation de systèmes de paiement sans ou avec espèces. Le ministère des entreprises publiques s'est engagé à faciliter l'accès du public au système de paiement sans numérique grâce à un programme de transformation pour l'innovation du modèle commercial et leadership technologique. L'ambassadeur d'Ukraine auprès de la République d'Indonésie, Vasil Hamianin, a salué le retour des importations de céréales ukrainiennes par l'Indonésie via le port d'Odessa après des mois d'entrave à l'action militaire russe. Vasile Lamianine, dans une déclaration reçue à Jakarta mercredi, a déclaré qu'il était satisfait de la livraison réussie de 50 000 tonnes de coque de maïs d'Ukraine via le port d'Odessa. Vasile a poursuivi que le blocus naval de la Russie a pris fin grâce au succès des troupes ukrainiennes dans la capture de l'île Zmini, île aux serpents, dans la mer Noire, près de la ville portuaire d'Odessa, le 30 juin 2022. Selon Vasile Lamianine, le peuple ukrainien a remercié le président Joko Widodo pour être venu directement en Ukraine et en Russie pour proposer des solutions pour surmonter la menace d'une crise alimentaire mondiale déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le président Joko Widodo, lors de sa visite début juillet, a présenté une proposition des corridors alimentaires, un schéma précédemment soumis par plusieurs pays. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a soulevé la question de la santé et de la sécurité alimentaire lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, AMM, qui s'est tenue à Phnom Penh, au Cambodge, mercredi. Retenons, dans une déclaration écrite du ministère indonésien des Affaires étrangères, a déclaré que les problèmes de santé existeront toujours à l'avenir. Il est donc très important de s'assurer que l'ASEAN est prête à surmonter les problèmes de santé actuels et futurs. Elle a déclaré que le mécanisme actuel de l'ASEAN doit être utilisé de manière optimale, notamment pour accélérer les opérations et assurer la disponibilité des fonds pour le centre de l'ASEAN pour les urgences de santé publique et les maladies émergentes, ACPHEED, qui a des piliers de prévention, de détection et de réponse. ACPHEED aura son siège en Indonésie, en Thaïlande et au Vietnam, et actuellement les modalités d'établissement d'ACPHEED dans ces trois pays sont en cours de discussion. En outre, la ministre Retno a apporté une contribution sur l'importance pour l'ASEAN de prêter attention aux problèmes de sécurité alimentaire en Asie du Sud-Est. Selon elle, il est important de renforcer les mécanismes régionaux pour renforcer davantage la sécurité alimentaire, en particulier avec les pays de l'ASEAN, plus 3, Chine, Japon et Corée du Sud. Le premier ministre cambodgien Hun Sen, au début de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN mercredi, a déclaré que l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, reconsidérerait le plan de pays convenu avec la Birmanie si l'armée au pouvoir du pays exécute davantage de détenus. L'association de 10 membres a exhorté la Birmanie à adhérer au consensus en 5 points convenus l'année dernière. L'ASEAN a également condamné l'exécution par la junte de la Birmanie de 4 militants pour la démocratie. Hun Sen, en tant que président de l'ASEAN cette année, a déclaré que l'unité de l'ASEAN a été mise à l'épreuve par les implications politiques et sécuritaires de la crise en Birmanie, qui s'est transformée en crise économique et humanitaire. La semaine dernière, l'armée de la Birmanie a défendu l'exécution d'activistes en tant que justice pour le peuple et a rejeté un flot de condamnations internationales, y compris par son voisin le plus proche. Bon, chers auditeurs, c'est toutes les nouvelles d'aujourd'hui.
Sejeritak bonsoir, voici le coin diplomatique et encore le titre, l'ambassadeur indonésien promeut la culture indonésienne à la télévision tunisienne. L'ambassadeur d'Indonésie à Tunisie, Zuhairi Miswari, a promu la culture et les valeurs indonésiennes sur la plus grande chaîne de télévision de Tunisie, TV Watania, le 31 juillet. L'ambassadeur Zuhairi Miswari, à cette occasion, a spécifiquement transmis les pensées de Trisakti du premier président de la République d'Indonésie, Sukarno, à savoir être souverain politiquement, indépendant dans l'économie et avoir une personnalité dans la culture. Pour cette raison, selon lui, l'ambassade d'Indonésie à Tunis prête attention à la diplomatie culturelle à travers la poésie, les films, la musique, les romans, la danse, la cuisine et la pensée. Par ailleurs, selon l'ambassadeur Zuhairi, l'Indonésie et la Tunisie ont toutes deux le souci de la culture afin que la pensée nationale soit solide et forte dans le cœur des citoyens des deux pays. L'ambassadeur Zuhairi a également évoqué la nécessité de la diplomatie culturelle comme pont pour renforcer les relations bilatérales entre l'Indonésie et la Tunisie. L'ambassadeur Zuhairi avoue et ressenti directement à quel point les Tunisiens ont un penchant pour la culture nusantara. Selon lui, le goût de la culture est très élevé quand il voit des danses, écoute dangdut et apprécie la cuisine indonésienne, les Tunisiens l'apprécient vraiment. Par conséquent, ils acceptent bien la diplomatie culturelle initiée par l'ambassade d'Indonésie en Tunisie. L'ambassadeur Zuhairi espère que la culture de l'archipel sera de plus en plus connue au Moyen-Orient et en Afrique. Dans le programme de discussion diffusé sur la chaîne de télévision Watania, l'ambassadeur Zuhairi Miswari a également lu un poème en arabe intitulé « Lettre de lumière, Indonésie-Tunisie » qui a été écrit par le poète indonésien Jamal Derahman. Auparavant, les activités de l'ambassade d'Indonésie à Tunis concernant la diplomatie poétique indonésienne-tunisienne ont reçu une très bonne réponse de la part des médias et des citoyens tunisiens. C'est Zuritok, c'est le compte diplomatique pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir, chers auditeurs, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 4 août 1961, la naissance de Barack Obama. Barack Hussein Obama II est un homme politique américain étant le 44e président des États-Unis. Barack Obama, né le 4 août 1961 à Hawaï, il est diplômé de l'Université de Columbia et de la Harvard Law School, où il a été président de la Harvard Law Review. Il était un activiste communautaire à Chicago avant d'obtenir son diplôme en droit. Il a travaillé comme avocat de droit civique à Chicago et a enseigné le droit constitutionnel à la faculté de droit de l'Université de Chicago de 1992 à 2004. Passons maintenant à l'événement du 4 août 1992. Le contingent indonésien a remporté sa première médaille d'or aux Jeux olympiques d'été. Le contingent indonésien a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992 à Barcelone. Susi Susanti a remporté le badminton en simple femme et Alan Budi Kusuma a remporté le badminton en simple homme à Barcelone. Le drapeau rouge et blanc haute volée marque la première médaille d'or du contingent indonésien aux Jeux olympiques depuis 1952 à Helsinki. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 4 août 2007, le lancement de la sonde spatiale Phoenix. Phoenix est une sonde spatiale américaine de la NASA, les États-Unis. Le Phoenix a été lancé sur Mars dans le cadre du programme de Mars Scout le 4 août 2007 et a atterri sur Mars le 25 mai 2008. Le but de ce programme est d'étudier l'histoire de l'eau dans l'Arctique Mars, de rechercher des preuves de zones habitables et d'évaluer le potentiel biologique de la glace, du sol et de l'atmosphère. Phoenix a étudié le sol martien avec un laboratoire de chimie, un microscope et plusieurs caméras jusqu'en août 2008. C'est le résultat, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
La Voix de l'Indonésie organise de nouveau le quiz international VOI 2022. 8 gagnants recevront des prix étrillants de chaque service linguistique. Préparez-vous, vous pourriez être l'un des gagnants du quiz international 2022 de La Voix de l'Indonésie. Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers amis l'antenne, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, le BRGM prépare plusieurs plans de financement pour la réhabilitation des zones de mangrove. L'Agence de restauration de la troupe et de la mangrove, BRGM, a préparé plusieurs plans de financement pour atteindre l'objectif du gouvernement de réhabiliter 600 000 hectares de zones de mangrove dans 9 provinces en 2024. Lors d'une conférence de presse au bureau du ministère de l'Environnement et des Forêts, à Jakarta, mercredi, la secrétaire de BRGM, Ayu Dewi Utari, a déclaré que la réhabilitation d'une zone de mangrove de 600 000 hectares coûterait environ 26 millions de rupiah. Ayu Dewi expliquait qu'en plus d'utiliser des fonds provenant du budget de recettes et de dépenses de l'État, APBN, et du budget régional des recettes et de dépenses, APBD, le gouvernement recherche des financements pour la réhabilitation des zones de mangrove à partir de subventions ou de prêts, ainsi que des investissements pour l'utilisation de services environnementaux. L'Indonésie a proposé à la Banque mondiale la mise à disposition de subventions de 15 millions de dollars américains, soit environ 223 milliards de rupiah, pour financer le programme de réhabilitation des zones de mangrove en 2022. Ayu Dewi a ajouté qu'il existe également un schéma de financement de l'obligation de réhabilitation des bassins versants pour les titulaires de permis de superficie forestière empruntés, IPPKH, dont les modalités sont préparées par le ministère de l'Environnement et des Forêts. Selon Ayu Dewi, la réhabilitation des zones de mangrove peut également utiliser les fonds de responsabilité sociale des entreprises et l'aide financière des institutions philanthropiques qui participent à la réhabilitation des zones de mangrove. Il a également expliqué que la ministre des Finances a approuvé l'allocation d'un budget supplémentaire de 73 milliards de rupiah pour les activités de plantation et de réhabilitation des mangroves dans une zone de 3548 hectares dans 9 provinces cibles en 2022. Les zones provinciales cibles pour le programme de réhabilitation des zones de mangroves comprennent le nord de Sumatra, Bangka Belitung, les îles Riau, le Kalimantan Occidental, le Kalimantan Oriental, le Kalimantan Nord, la Papouasie et la Papouasie Occidentale. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez les tards, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, le 26 juillet dernier, un festival intitulé Festival Couture s'est tenu au parc Blambangan, Banyuwangi. Ce festival est organisé pour servir une variété de gâteaux couture, une collation typique de la résidence de Banyuwangi. Lors du festival, les participants se sont affrontés pour servir le gâteau couture avec une apparence et un goût attrayant. Selon la résidente de Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, le festival couture a eu lieu pour voir les réactions de la communauté. Il s'avère que le gâteau couture peut être fabriqué avec un concept différent et unique, de sorte que la compétitivité et la valeur économique de ce gâteau traditionnel augmentent également. Ce gâteau est fabriqué à partir des ingrédients de base de la farine de riz qui est cuite par friture. La couleur brune du gâteau couture est obtenue à partir de sucre de palme ou de cassonade ajouté à la pâte comme source de douceur. Le gâteau couture a une forme qui a tendance à être épaisse, bombée comme une montagne au milieu et fine sur les bords. Toutes les couches de la société connaissent et aiment ces collations traditionnelles. Les gâteaux couture ou couture sont souvent servis lors des célébrations et se trouvent facilement dans des lieux culinaires de Banyuwangi. Lors du festival couture ou couture hier, ce gâteau couture créé par les habitants de Banyuwangi est diversifié. Il y a du couture rouge et blanc, de couture de pandanus, de l'encre de sèche ou caillé avec un colorant de calma et de couture colorée appelée couture arc-en-ciel. Il existe également de couture à base de velours rouge, la couleur verte provient de feuilles de pandanus, de couture de l'espresso et de couture aux saveurs allant du café à la cannelle. Tous les colorants utilisés proviennent d'ingrédients naturels et sont inoffensifs. Ce gâteau traditionnel est facile à trouver dans la région de Banyuwangi à un prix relativement abordable, environ 2 000 à 5 000 rupiah par pièce. Chers auditeurs, c'était le magazine culture pour ce soir.
Cerita perihati yang luka, cinta sederhana, kau buat.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée La conférence et festival international du tourisme de bien-être 2022. La mise en œuvre de la présidence indonésienne du G20 sera entrecoupée de plusieurs événements parallèles dans les villes électionnées. L'un des événements parallèles préparés par le ministère du Tourisme et de l'Économie créative est la conférence et le Festival international du tourisme de bien-être 2022. La conférence et le Festival international du tourisme de bien-être 2022 auront lieu du 5 au 7 août 2022 à l'hôtel Alila Solo, la ville de Surakarta, Java Central. Cette activité est une collaboration entre le ministère du Tourisme et de l'Économie créative, le gouvernement de la ville de Surakarta et l'Institut indonésien du bien-être. Cet événement a également invité des conférenciers de l'étranger tels que l'Inde, la Thaïlande et Singapour. Et également présents les ambassadeurs des pays du G20 et de l'ASEAN. Selon le directeur du tourisme d'intérêt spécial du ministère du Tourisme et de l'Économie créative, Alexander Ryan, il y a 5 activités principales dans la conférence, à savoir les conférences, les ateliers, les expositions, le jumelage d'entreprises et les visites sur le terrain. La mise en œuvre de la conférence se déroulera pendant 3 jours sur le thème Stratégie de durabilité pour la relance et la croissance du tourisme mondial à travers le tourisme de bien-être pour tous et impliquera des participants d'associations ou organisations, les acteurs de l'industrie liés au tourisme de bien-être des pays du G20, ASEAN et l'Indonésie. Pendant 3 jours, l'événement de la conférence sera divisé en plusieurs sujets de discussion, notamment le cadre de tourisme de santé et de bien-être, destination de tourisme de bien-être et le tourisme de bien-être inclusif, investissement, opportunités et développement des capacités. Chaque journée à la conférence sera également entrecoupée des sessions de moments bien-être animés par des formateurs de méthodes de bien-être indonésiennes. En plus de fournir des informations, ce moment de bien-être impliquera directement les participants, y compris les délégués, pour suivre les instructions du formateur. Pendant ce temps, dans les activités de jumelage d'entreprise, il y aura une rencontre entre vendeurs et acheteurs. Avec le potentiel de l'Indonésie, Alexander espère que la conférence et le Festival international du tourisme de bien-être 2022 ouvrira des opportunités aux acteurs pour développer des collaborations potentielles entre l'industrie du voyage ou tourisme de bien-être, acquérir et partager des connaissances liées à l'éducation au bien-être, ainsi que présenter des produits et des opportunités d'investissement dans le secteur du bien-être. Solo sera le lieu de conférences, d'ateliers, d'expositions, de 18 d'entreprises et de sorties sur le terrain. Selon Alexander, la visite sur le terrain serait très intéressante. Cette activité invitera les délégués à faire des visites de travail à Solo, Yogyakarta et Bali pour découvrir le potentiel du tourisme de bien-être là-bas. Pour la mise en œuvre de la visite sur le terrain, le plan impliquera des voyages spécifiques et aura une compréhension du tourisme de bien-être. À travers la conférence et le Festival international du tourisme de bien-être 2022, on espère que l'Indonésie pourra être considérée comme l'une des principales destinations du tourisme de bien-être. Parce que selon une carte de l'Institut mondial du bien-être, l'Indonésie n'est pas encore entrée sur la carte des destinations mondiales du bien-être. Pour cette raison, cette conférence devrait être en mesure de marquer l'Indonésie en même temps en termes de bien-être. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Rasakan semakin luntur, sungguh aku sungguh tak tahu. Oh, apakah yang membuatmu jadi berubah, berubah, jadi berubah, berubah, semakin luntur, semakin menjauh, berlari dariku, tak jelas lagi. Cintamu padaku terasa hambar, semakin berkurang. Apa yang ada di hatimu, di cintamu, ku rasakan semakin luntur. Sungguh aku sungguh tak tahu, oh apakah yang membuat jadi berubah, berubah, jadi berubah, berubah, semakin luntur, semakin menjauh, berlari dariku, tak jelas lagi, cintamu padaku, terasa hambar, semakin berkurang, sama menghilang. Seperti pertama yang aku kenal.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Chers, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson intitulée « Dahulu », chantée par le groupe musique The Groove. Chers amis, The Groove, un groupe de musique formé en 1997 et dirigé par la chanteuse Rika Ruslan. The Groove s'est fait connaître depuis la sortie de son premier album intitulé « Ku Ingin » en 1999. La chanson principale de l'album s'intitulait « Dahulu ». Cette chanson raconte la relation entre des amants qui ne sont plus comme ils étaient quand ils ont commencé une relation. Le succès de la chanson Dahulu a poussé de jeunes musiciens indonésiens, membres du groupe de musique GAC, à rééditer cette chanson en 2016. Bon, chers auditeurs, voici The Groove va chanter une chanson intitulée Dahulu. Bonne écoute!
Dahulu, semua indah. Dahulu, ku menjadi bunga cinta.
Terasa berkelosan, dahulu, dahulu, ku menjadi
La Voix de l'Indonésie organise de nouveau le quiz international VOI 2022. 8 gagnants recevront des prix étrillants de chaque service linguistique. Préparez-vous, vous pourriez être l'un des gagnants du quiz international 2022 de la Voix de l'Indonésie. Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.